grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 29 mai 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous si vous nous écoutez à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Forum de la presse parle de trois sujets. Les discussions après la signature de l'accord de paix ici à Bamako le 15 mai dernier, la recrudescence de la violence dans le nord du pays et le plan 2015-2016 de la campagne agricole qui a été donc adoptée lors du Conseil supérieur sur l'agriculture présidé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons comme invité Djakaridia Yossi du journal L'Indépendant, Maman Cissé du groupe Renouveau, Paul Ben, journaliste correspondant de plusieurs médias allemands, Yaya Koulibaly de la radio Nasraoulé prendra ce débat en vol. Alors c'est donc parti pour ce Forum de la presse. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique. Les discussions, donc, après la signature de l'accord de paix ici à Bamako ont commencé à Alger. Selon un membre de la coordination des mouvements armés de l'Azawad, des rencontres directes avec le gouvernement devraient avoir lieu. Donc, sont donc envisagées à l'issue de cette rencontre. Le gouvernement du Mali s'était déjà engagé à rencontrer la coordination une fois que celle-ci paraphérait l'accord. Donc, ce n'est pas un élément nouveau selon les éléments de la coordination. Bamako n'a pas encore confirmer sa participation à ces discussions directes. Alors, Paul Ben, qu'est-ce qu'il faut attendre donc de ces discussions après l'accord de paix?
Merci, M. Sidibé. Je crois que nous jouons ici les prolongations. La CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, nous a toujours habitués à ces revirements de situation, à ces volte-face. Je ne peux pas trop m'étendre sur ces deux ou trois dernières années où on a enregistré à chaque fois ils disent oui, on fait ceci, non, on ne fait pas cela. Je crois que de cette rencontre, cette dernière, disons-le, si la communauté internationale le veut, si c'est la dernière rencontre, je crois que on n'en tirera pas plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Alors, Maman Cissé, des discussions après l'accord, le chef de la MINUSMA avait laissé entrevoir cette éventualité, qu'il pourrait y avoir d'autres discussions après donc le paraf et la signature du 15 mai. Alors aujourd'hui, que faut-il prévoir comme scénario après ce 15 mai?
D'abord, moi je pense que, est-ce qu'on est dans des discussions ou dans des négociations? Je pense qu'il faut arrêter.
Quelle est la différence?
Voilà, il faut une clarification et je pense que c'est ce qui tarde à venir. Quand on voit, ça fait 3 jours, quand on discute avec les éléments de la CMA, on a l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'un côté, il y a le gouvernement qui veut tout de suite que la CMA accepte de signer et la communauté internationale. Et qui
temporise.
Maintenant, quand on voit, vous disiez tout à l'heure que le Mali n'a pas confirmé sa participation. Non, le Mali n'a pas confirmé sa participation de façon officielle, mais on sait que le ministre des Affaires étrangères, il est le seul qui sera là-bas. On a proposé 3 personnes, mais c'est le ministre des Affaires étrangères qui va aller au Mali.
Il va faire le déplacement.
Donc, c'est ça. Voilà.
Le ministre de la Réconciliation aussi est attendu. D'accord. Alors, le Mali avait dit en son temps que des discussions de fond, que le pays ne va pas s'engager dans des discussions de fond. Et la médiation avait laissé entrevoir également que les annexes donc, de cet accord seront revues. Alors, Djakaridia Yossi, vous êtes du journal L'Indépendant. Que faut-il comprendre à travers ces mots?
Enfin, moi, je crois déjà, je rejoins Mahamane par rapport vraiment à la terminologie des mots, négociation, discussion. C'est important de faire la part des choses. Parce que lors du paraf le 1er mars, il a été dit que les négociations étaient bouclées. Et ce que je crains fort, c'est que la CMA a amené sur la table des exigences que le gouvernement malien a rejetées d'office. Donc, je ne vois pas l'utilité, n'est-ce pas, de cette rencontre d'Alger si la CMA ne se met pas dans une dynamique de signer, n'est-ce pas, cet accord-là, pour qu'enfin on puisse faire face au conflit qui vaille, celui contre le terrorisme dans les régions du nord et de plus en plus vers les régions du centre aussi.
Alors, Mamane, aujourd'hui, le gouvernement du Mali a dit que le texte ne sera pas revu, le fond n'est pas à discuter, mais plutôt les annexes. Que faut-il comprendre ?
Dans ces cas, parlons d'un accord additif que le gouvernement ne dit pas officiellement, qui est en train d'être négocié. Et moi, je pense que si sincèrement, on veut être dans cette logique de processus de paix, qu'on revient au Mali, c'est-à-dire que la CEMA accepte de signer ou pas. Et je pense qu'il ne sert à rien de toujours à Alger et de faire croire qu'on est en train de négocier, alors que sincèrement, il n'y a pas lieu de négocier. Moi, je pense que le préalable, c'est qu'on se retrouve au Mali. Et si, par exemple, c'est vrai qu'ils sont des Maliens, et ils veulent vraiment être dans la République, on l'a vu ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui étaient avec la rébellion. Je parle sous le contrôle de Paul Venn, on connaît déjà. Donc je pense que c'est important, s'ils veulent revenir, qu'ils reviennent. Mais je pense que il est temps que le gouvernement trouve la boussole, la bonne formule pour dire aux Maliens, écoutez, soit j'arrête les négociations ou bien autre chose.
Alors, on a vu lors de cette signature ici le 15 mai à Bamako, il y a une partie des groupes armés donc qui ont quitté la coordination des mouvements armés de l'Azawad, notamment une partie de la coalition du peuple de l'Azawad. Alors aujourd'hui, Paul Ben, est-ce que c'est ce remue-ménage au sein donc de la coordination est un bon point pour Bamako?
Bon, moi je ne pourrais pas appeler ça remue-ménage parce que vous savez, officiellement, on dit que il y a une dissidence au sein de la CMA. Les gens qui étaient là, moi, je connais certains. Le colonel Hassan Akmehdi, par exemple, qui a créé son mouvement après le clash qu'il y a eu entre les djihadistes et le MNLA à Gao, n'a pas signé. Il était là. Il était là dans la salle, mais il n'a pas signé. Le jeune homme qui a prononcé au nom de d'un groupe qui a quitté, qui a appelé la CMA à signer, ben lui c'est un inconnu, on ne le connaît pas, mais tout reste à savoir. C'est-à-dire, moi je veux que les gens comprennent quelque chose. Si la CMA décide de signer l'accord, la CMA a signé son arrêt de mort. Al-Rabas Akintala, Bilal Aga Sherif et tous les autres qui font partie de la CMA, s'ils signent, ils ne retournent plus à Kidal.
Pourquoi ?
Il faut que les gens le comprennent. Parce que derrière tout ce qu'on voit, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les indépendantistes ou bien les gens qui crient Malino, Azawad, Malino, mais on a des problèmes avec les djihadistes. Ce sont les djihadistes qui financent. C'est eux qui mettent en écran le MNLA qui va combattre. C'est eux qui ont le financement. C'est eux qui ont les armes. C'est eux qui ont la puissance. Si la CMA signe, parce que moi j'ai eu des discussions avec certains entre
guillemets. Donc vous voulez dire que la branche politique donc de la coordination dépend des groupes djihadistes?
Bien sûr. Si la CMA signe, je le répète, elle a signé son arrêt. Elle a signé ce qu'on appelle la fatwa. Les djihadistes avec qui j'ai eu à échanger m'ont demandé, est-ce que eux ils sont maliens ou pas? Parce que vous dites que bon, vous les Maliens, vous nous avez dit que vous voulez discuter avec les Maliens par rapport au problème que nous avons. Nous sommes Maliens ou nous ne sommes pas Maliens? Bon, la question elle est pertinente. On a dit qu'ils ont signé des accords avec les djihadistes, ils sont avec Al-Qaïda, avec Boko Haram et ainsi de suite. Mais ce sont des Maliens. Ils ont posé la question, moi je ne peux pas la répondre, mais c'est pour vous dire que si les gens signent à Bamako, ils ne vont plus retourner à Kidal. Et moi, je l'ai dit à l'AMUNISMA, à certaines personnes de l'AMUNISMA avec qui j'ai échangé, j'ai dit, essayez d'assurer la sécurité de ces gens que vous demandez de signer. S'ils signent, assurez leur sécurité, assurez la sécurité de leur famille, ils vont signer. Il n'y aura pas de problème. Au fait, c'est tout ce problème, tout le tralala qu'il y a autour de ces 8 points qu'ils veulent rajouter, qu'ils veulent faire ceci. Les idées indépendantistes, là, ça, c'est fini, ça.
Moi, je parle en connaissance de cause, j'ai quitté le terrain il n'y a pas longtemps.
D'accord. Alors, nous allons donc parler des violences qui secouent donc le nord du pays. Près de 2 semaines après donc la signature de l'accord de paix et de réconciliation entre le gouvernement et ces groupes armés dont nous parlons, la signature, la situation reste donc fragile de façon générale dans le pays, si on en croit donc à cette dernière attaque contre la MINUSMA ici même dans la capitale. Alors comment est-ce qu'on peut sortir donc de ce gouffre, Diakar Diaye aussi du journal L'Indépendant?
Alors c'est vrai que depuis le parapode de cet accord-là, on assiste à une recrudescence des violences, principalement dans les régions du Nord. Moi je me dis que c'est bien dommage, c'est peut-être le lieu de revoir le mandat de la MINUSMA. On a dit qu'en juin, le mandat va être renouvelé. Moi, je me dis que tout en le renouvelant, il sera bien de le modifier. Parce que dans l'entendement de l'écrasante majorité des Maliens, la MINUSMA est là pour participer, n'est-ce pas, à la sécurisation. Mais depuis hier, on entend que la MINUSMA n'a pas vocation à imposer la paix, qu'elle n'a pas vocation à se battre. Ben, c'est ce qui crée toute cette frustration chez l'écrasante majorité des populations. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que devant environ 7000 soldats, n'est-ce pas, de la MINUSMA, qu'il y ait des attaques au quotidien, que la MINUSMA ne puisse plus assurer sa propre sécurité. À plus forte raison, nous aider nous à stabiliser notre pays. Hein? Donc moi, je me dis qu'il faut revoir le mandat de la MINUSMA et cela très rapidement.
Donc vous pensez que la population est révoltée contre la MINUSMA?
Peut-être pas révolté, mais dessus.
D'accord. Alors, Maman Cissé, vous êtes du groupe Renouveau. Dites-nous, groupe de presse, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la situation sécuritaire, peut-être de la MINUSMA à Bamako?
Bon, à Bamako, c'est quand même inquiétant, mais moi, je préfère beaucoup parler de ce qui se passe sur le terrain parce que la MINUSMA, qu'on le veut ou pas, n'a pas vocation à rester à Bamako.
La violence se transporte dans la capitale.
Oui, ça se transporte dans la capitale. Et je rejoins Diakar Diaye aussi quand il dit, bon, moi, je me suis dit que la MINUSMA paye sa passivité parce que quand on voit aujourd'hui la région de Tombouctou, à partir de 15 km, dites-vous que vous n'êtes plus dans la sécurité. C'est quoi ce que les informations qui nous parviennent, c'est que la MINUSMA avait du mal à organiser des patrouilles. Et on sait déjà, à quelques kilomètres de la ville de Tombouctou, on a les MAA, composés de grands trafiquants de drogue et autres. C'est quand même inquiétant, ce qui se passe même autour de Tombouctou, des djihadistes qui se forment. Moi, je pense que si l'aménagement veut en tout cas sécuriser ses arrières, et qu'elle commence d'abord à voir son mode de fonctionnement, sa cohabitation avec les autres forces, parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème de cohabitation entre l'armée malienne et la MINUSMA. Et je pense qu'il faut le corriger le plus rapidement possible.
Nous allons observer quelques secondes de pause avant de donner la parole à Paul Ben.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter et notre page Facebook pour et donc réagir à ce que vous entendez dans ce studio. Paul Ben, vous aviez la parole. Aujourd'hui, c'est le forum de la presse, je le rappelle, avec des confrères journalistes. Paul Ben voulait réagir par rapport à la situation sécuritaire. Allez-y.
Oui, merci. Je voulais tout juste ajouter à ce que mes confrères viennent de dire que la MINUSMA... qu'on le veuille ou non, hein, on l'a vu dans d'autres pays, et depuis plusieurs années, la MINUSMA n'a jamais, disons, les forces des Nations Unies n'ont jamais eu vocation à combattre. Moi, j'ai assisté à une scène à Gao en 2014, où les jeunes de Gao se sont révoltés.
Alors, juste une parenthèse, si vous dites que les forces des Nations Unies n'ont pas vocation à combattre, on se rappelle qu'au Congo, par exemple, la mission a dû user de la force pour repousser le MP22.
Oui, c'était une situation d'exception. Ça, en 20, en 30
ans. Le Mali
est-il
dans ce cas?
Non. Le Mali, moi, je ne crois pas. Le Conseil de sécurité doit se réunir.
MP22.
Le Conseil de sécurité doit se réunir, mais moi, je ne crois pas que ça va changer en quelque chose le mandat actuel de la MINUSMA, qui a vocation
à maintenir, à stabiliser le pays. On l'a dit, ça a frustré les Maliens, c'est vrai. Moi-même, je ne suis pas de ceux qui vraiment portent la MINUSMA à cœur, parce que je sais que vraiment, avec tout l'arsenal qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont, normalement, ils devaient pouvoir au mieux se défendre, au plus défendre les populations maliennes, mais c'est pas le cas. Revenons un peu aux attentats et puis aux actes que la MINUSMA a subi. Moi, c'était prévisible. Pour les observateurs les plus pointus, cela était prévisible. La MINUSMA...
De quelle attaque vous parlez?
Je parle, par exemple, de tout ce qui se passe à Gao, à Tombouctou et à Bamako récemment. À Bamako récemment, c'était prévisible. Parce que à Bamako, bon, ça se transporte à Bamako. Ça se transporte à Bamako parce que actuellement, moi, j'avais dit à certaines personnes, après la signature de l'accord, ça va exploser. Ça va exploser parce que les groupes armés en face seront qu'ils n'ont plus d'autres issues que de se défendre. Actuellement, les djihadistes qui posent beaucoup d'actes ne veulent pas le faire pour avoir une médaille ou pour avoir une distinction. Ils le font pour tout juste se faire entendre. C'est prévisible. La MINUSMA doit essayer de revoir son mandat. Essayer de parce que vous savez, la MINUSMA, quand elle vient, disons les forces des Nations Unies, quand elles viennent dans un pays, elles viennent avec un programme standardisé qu'elle applique dans tous les pays. Or au Mali, c'est pas le cas. Il faut essayer de gérer les choses pas cas par cas.
Est-ce que la situation du Mali, par exemple, n'est pas plus complexe qu'ailleurs?
Bien sûr.
Avec
bien
la
sûr,
situation
bien sûr, la Somalie, le Soudan où ils étaient, la Côte d'Ivoire tout près où ils étaient, c'est pas la même chose qu'au Mali. Donc il faut essayer de voir, parce que vous savez, on a cru que bon, on pouvait gérer le Mali comme la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas une guerre Nord-Sud ou bien musulmans contre chrétiens. Non, pas du tout. On n'a pas une guerre. Les Maliens n'ont pas de problème. Les gens de la CMA que je rencontre, avec qui je discute, me disent que nous n'avons pas de problème avec le peuple malien. Ils ont des problèmes avec les autorités, le gouvernement malien. Il faut aussi que Bamako reconnaisse, à un moment donné, qu'on a beaucoup fait de fausses choses. Quand vous signez un document officiel, que ce soit à Tamanra 7, à Alger 1,
des accords antérieurs.
Voilà. Quand un pays responsable signe un document, il faut qu'elle le respecte. Moi, Alger 2006, 2007, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été signées dans le document qui n'ont pas été appliquées.
Donc, vous parlez donc des difficultés de la mise en place donc de ces accords antérieurs qui nous conduisent donc.
Pas même la mise en place. Quand vous parlez comme ça, vous parlez de façon diplomatique. Il faut le dire. Le gouvernement malien, dans le passé, n'a pas respecté ses engagements. Donc maintenant, il faut qu'il le passe. C'est la crédibilité du Mali qui est mise en cause. Même la communauté, la fameuse communauté internationale, peut-être c'est elle qui peut être notre garantie. Sinon, est-ce que vous, M. Sidibé, vous pouvez nous garantir que l'accord que le Mali a signé le 15, ici à Bamako, au CICB, est-ce que le Mali va le respecter? Vous pouvez nous le garantir?
Je n'ai pas mandat à me prononcer là-dessus. Alors, Maman Tissé, aujourd'hui, c'est la journée donc des casques bleus. En début 2013, donc, 36 casques bleus au total ont été tués au Mali. Plus de 150 blessés et près de 80 attaques ciblées contre la mission donc des Nations Unies, selon les experts. C'est la mission qui a payer le plus gros, donc la plus grosse donc des pertes parmi toutes les missions depuis 90 aujourd'hui. Est-ce que le Mali fait l'exception donc de ces différentes missions?
Non, je pense que le Mali fait exception, parce que la situation du Mali est vraiment compliquée. Et comme l'a dit mon prédécesseur, c'est-à-dire on n'est pas en face de forces visibles. Quand on voit la situation sur le terrain, on ne sait pas qui est djihadiste, qui est en tout cas indépendantiste ou autre. Parce que quand on se retrouve, par exemple, au niveau de la DHEA, on a l'impression que c'est des djihadistes convertis en malien façon, je ne sais pas. Maintenant,
difficile de faire le tri.
Difficile de faire le tri. Donc, ça part de ce niveau, c'est-à-dire la mission de la MINUSMA devient difficile. Et en dehors de ça, le fait que la MINUSMA a une mission déstabilisation, ça lui crée des problèmes. Je pense que c'est important à ce niveau que l'État malien, à partir du mois de juin, et la MINUSMA, les Nations Unies, arrive à déterminer au moins la véritable mission de la mission et la MINUSMA. Est-ce que ça va continuer à stabiliser le pays pour enregistrer des morts, ou bien on passe par autre chose comme on l'a vu ailleurs?
Donc depuis le début de la crise, 36 casques bleus tués, le plus lourd tribut donc payé par les casques bleus depuis la guerre en Somalie. Diakar Diaye aussi, quelle appréciation faites-vous donc de cette annonce?
Bon, je reconnais que le bilan il est assez lourd. Mais quelque part, je rappelle un passage de mon confrère Mahman, la MINUSMA paye pour sa passivité. Hein? C'est ce qui explique ce nombre élevé. Mais moi, je me dis que dans tout ça, il faut revoir carrément le mode de fonctionnement, le mode opératoire, n'est-ce pas, des éléments de la MINUSMA. Parce que sûrement que nous ne sommes pas des experts militaires, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, dans un pays, c'est vrai que le Mali est assez vaste, mais dans un pays où il y a 7000 soldats, pour stabiliser, il faut d'abord que la paix règne. Sans paix, on ne peut pas stabiliser. Donc c'est tout ça qui m'amène vraiment à demander un changement, n'est-ce pas, du mandat. Parce que tant que les forces de l'ONU n'ont pas mandat à se battre contre toutes les forces du mal, elles vont continuer à payer les lourds tributs. Et ça va continuer malheureusement.
Alors,
je voudrais tout juste ajuster.
Paul Ben.
Vous avez remarqué deux incidents majeurs qui ont défrayé la chronique. Ça, c'était d'abord la marche de Gao, où il y a eu des morts.
La bavure.
Vous dites bavure. Écoutez, quand vous êtes attaqué, il y a la légitime défense. Le jour d'avant, les jeunes de Gao avaient attaqué le camp le plus fourni à Gao. Le camp le plus fourni, c'était celui des Chinois, qu'ils ont détruit. Le camp où il y a eu ce que vous appelez bavure, c'est celui qui est en face de l'hôpital. C'est pas un camp costaud. Le camp le plus costaud, c'était celui des Chinois. Mais quand on détruit le camp le plus costaud, le lendemain, les gens reviennent, écoutez, vous vous défendez comme vous pouvez. Ça, c'était le premier incident. Le second incident, ça, c'était dans le Tilemsi, où un hélicoptère de la MINUSMA a envoyé des roquettes à des trafiquants de drogue, à des djihadistes qui passaient par là. Et on a crié au scandale. Et tous les Maliens se sont levés pour crier au scandale. Mais écoutez, même si moi je suis MINUSMA dans ce cas-là, je vais me ressaisir. Donc il faudrait que le Mali, les Nations Unies essayent de s'asseoir pour dire que bon, maintenant on est en face d'un problème qui est spécial et nous devons chercher une solution spéciale à ce problème.
D'accord. Alors, depuis donc la recrudescence de ces violences dans le nord du pays, cela a fait une vague d'abord de 500 réfugiés dans les pays voisins. Ensuite, beaucoup de déplacés. Le PAM totalise donc, au total, le PAM estime que le nombre de déplacés à l'intérieur de la région de Tombouctou est estimé aujourd'hui à 31 personnes qui ont donc trouvé refuge dans différents cercles donc de la région, dont Gourmararousse. Alors Maman, quand on sait que la période de soudure est donc toute proche aujourd'hui, est-ce que ces populations peuvent, avec les populations des zones comme Gourmararousse, subsister et survivre donc à la situation actuellement malgré l'assistance du PAM?
Ça va m'étonner parce que qui connaît Gourmararousse, il y a une zone qu'on appelle le lac Gourou qui permet de cultiver du mil. Et
le riz flottant.
Quand on voit cette zone depuis un moment, depuis le début de la crise en 2012, il y a une situation de guerre qui impose aux paysans, aux bonnes populations, de se réfugier dans des localités comme la frontière burkinabé et autres vers le Niger. Donc c'est difficile et plus grave, ce qu'on ne dit pas, Gourmararousse a la particularité d'être une zone où on a l'impression qu'on n'est pas au Mali. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand la troupe dirigée par le colonel Keba était arrivée à Gourmararousse pour la première fois depuis l'indépendance, on a vu des véritables militaires maliens qui viennent faire des patrouilles. C'était vraiment la fête. Donc, pour vous dire, c'est quand même difficile.
Très enclavée.
Quand on voit même la position du cercle de Gourmararousse dans la région de Tombouctou, on a l'impression qu'on est dans une localité qui est isolée. Et quand on rajoute ce qui se passe actuellement, je vais vous dire autre chose, c'est que Gourmararous, c'est pas loin de Bambara Modé. C'est très grave. Il est difficile aujourd'hui pour un chef de famille de passer la nuit dans sa maison parce que la puscose est là. Donc je pense que c'est important. Vous vous dites que le bilan que vous avez communiqué par rapport au PAM, je crois qu'il y a un autre bilan qui est plus lourd et qui fait froid au dos. Et je pense que c'est aux autorités maliennes et d'abord au président de la République de comprendre que la situation n'est plus à ces discours continus.
Il y a une situation, agir sur le terrain.
Oui, il faut agir sur le terrain parce que je vais vous donner un autre exemple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de Tombouctou, parce que c'est là où est concentré et sont concentrées les différentes forces, quand on Barkhane, l'armée malienne, le force onienne. Il faut pour aller au niveau de Douanza, l'escorte est organisée deux fois dans la semaine, alors que dans les temps, il y a six mois, c'était pas comme ça, tu as ton véhicule, tu peux aller. Mais aujourd'hui, il est difficile pour un citoyen de quitter Tombouctou et d'aller à Douanza qui permet d'atteindre le sud du pays. Ouais. Voilà. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on agisse vite.
Alors, Djakaria Yossi, un mot sur la situation donc, de ces déplacés, 500 réfugiés dans les pays voisins et de nombreux déplacés internes, notamment dans la région de Tombouctou.
C'est déplorable parce que ce qui se passe dans cette zone-là, comme l'a dit Mahaman, bien avant cette crise, ce sont des populations qui vivaient déjà dans l'extrême précarité. Et aujourd'hui, sans compter que les maigres ressources, n'est-ce pas, dont ces populations-là disposent, que ce soit à travers le PAM ou à travers cette population elle-même, sont régulièrement, je ne sais pas, volées ou rasées par ces djihadistes qui viennent. Chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un don ou en tout cas un truc de ce genre, ils organisent des razzias, ils viennent et ils enlèvent ça.
Et puis tout.
Voilà, donc il est extrêmement important pour les autorités maliennes de prendre cet aspect en compte.
Alors, quelle doit être la responsabilité des autorités maliennes, Paul Ben?
Oui, moi j'espère que le commissaire à la sécurité, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, le ministre du développement rural nous écoute en ce moment, le président de la République, le premier ministre et son gouvernement. Je crois qu'ils nous écoutent et je sais que dans le passé, malgré tout ce qui s'est passé...
Vous êtes dans le secret de Dieu, hein?
Non, pas du tout. Dans le passé, non, je sais parce que j'ai effectué plusieurs missions.
Alors, bonjour, Monsieur le Président.
Le commissariat à la sécurité alimentaire, non, pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui s'informe beaucoup. Dans le passé, on a mis en place avec... Vous savez, il y a le système d'alerte précoce qui, chaque année, fait un bilan de tout ce qu'il y a comme crise alimentaire, crise économique dans tout le Mali. Et le rapport de cette année est déjà sorti. Et j'espère qu'ils vont mettre les mesures en place pour essayer de soulager ces populations qui sont à l'intérieur un peu éparpillées au Mali. Maintenant, celles qui sont dans les pays voisins, nous avons nos représentants qui sont là-bas, qui pourront aussi mettre la main à la pâte pour essayer vraiment de venir en aide à ces populations parce que vraiment elles ont beaucoup souffert. Moi j'étais une fois dans le camp de Mbera en Mauritanie. J'ai vu que vraiment c'est la misère. C'est vraiment très difficile de vivre loin de chez soi et surtout de quémander souvent pour pouvoir survivre.
Alors, cette responsabilité donc des autorités maliennes a été largement débattue hier dans le Grand Dialogue qui était consacré donc à la situation des réfugiés et des déplacés internes selon le représentant donc de la société civile que nous avons interviewé. Donc, l'absence des autorités maliennes se fait de plus en plus sentir. Alors, comme le dit Paul Ben, si les autorités entendent donc ce débat, il est peut-être temps de faire un tour dans ces zones-là. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre la troisième et dernière partie de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
189 milliards et 306 millions, c'est donc le coût donc de la campagne, du plan de campagne donc agricole 2015-2016 qui a été adopté mercredi dernier par le Conseil supérieur de la du Conseil supérieur de l'agriculture. Alors un mot donc sur cette campagne. Paul Ben, nous avons mené ensemble une mission dans les régions, dans plusieurs régions donc du Mali, par rapport à cette question de la sécurité alimentaire. Tous les ans, on parle de plusieurs milliards investis dans le domaine de l'agriculture, mais les autorités peinent donc à être au rendez-vous de la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Bon, je ne crois pas que les autorités peinent à être au rendez-vous de la sécurité alimentaire.
Décidément.
Le problème que nous avons, ce n'est pas la production. Ça a été toujours dit. Le problème que nous avons, c'est le problème de la commercialisation. Vous savez, le Mali est très respectueux des textes et des accords que nous avons signés avec les pays amis de l'UEMOA, de la CEDEAO. C'est pourquoi vous allez voir que dans les zones de production de l'Office du Niger, par exemple, vous allez voir des immatriculations qui viennent du Nigeria, du Togo, du Bénin, qui viennent prendre la production et puis qui ressortent.
La Mauritanie également.
Mais bien sûr, du Niger aussi. Quand la saison est bonne, alors que moi je l'ai dit à qui de droit, j'ai dit on ne peut pas le faire dans d'autres pays. Nous l'acceptons, ça c'est normal, c'est les textes qui sont là. Mais essayons de voir comment est-ce qu'on peut, c'est pas stopper, mais un peu ralentir la sortie. L'année dernière, après la campagne agricole, le ministre du Développement Rural, Boukari Traoré, a fait une tournée un peu dans les zones de production, et notamment dans la zone des plateaux d'Ogon, où il a exhorté les producteurs à remplir les greniers, comme on dit, à stocker, pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Au fait, c'est le problème que nous avons, c'est le problème de commercialisation. On produit. Chaque année, vous allez voir que le bilan de production est plus élevé que l'année dernière. Maintenant, là où le bât blesse, c'est la commercialisation. Les pays frontaliers viennent se servir comme ils veulent. Vous savez, le producteur aussi, ce n'est pas un énarque, ce n'est pas un normalien. Il vend au plus offrant. Je parle des pays limitrophes, mais il y a nos compatriotes, les céréaliers qui sont là,
qui achètent
sur pied. Alors que le riz n'est pas encore récolté, ils achètent un hectare, deux hectares pour bloquer et créer la spéculation. C'est un peu à tous ces problèmes que le gouvernement doit faire face. Et moi, je ne crois pas que nous avons un problème de sécurité alimentaire, mais plutôt de commercialisation.
Êtes-vous d'accord avec cette analyse de Paul Ben?
Quand je suis avec Paul Ben et Jacques Diaye aussi, Paul qui est un homme de terrain et Jacaria qui était quand même responsable au niveau quand même de ce qu'on appelle le grenier de l'Afrique de l'Ouest, l'Office Niger, je ne peux pas dire grand-chose. Mais ce qui est important...
Donc tu fais une confiance aveugle à Paul.
Tout à fait, parce que c'est quand même un homme de terrain. Ce qui est important pour moi je vois la situation à un certain niveau. Au niveau quand même de la subvention des engrais ou autres, là, moi j'ai l'impression que pendant toutes ces années, on continue à subventionner. Je me rappelle quand tu étais au pouvoir, c'est vrai que l'engrais c'était 12 000 et quelques. Maintenant, c'est 11 000.
11 000.
Est-ce que 11 000, on voit l'impact, le paysan de Nyonsombougou et autres, là, est-ce qu'il voit l'impact? Et je m'interroge et moi, j'ai l'impression qu'il y a un langage politique derrière tout ce qu'on est en train de faire. Et vu tout le tantam qui a accompagné cette année, et la journée des paysans...
Il ne faut pas ajouter le lit. Hein.
la journée des paysans. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on veut nous cacher. Peut-être c'est l'affaire de l'engrais frelaté qui aujourd'hui fait grand bruit. Et le président de la République l'a averti. Mais est-ce qu'il va aller au-delà des menaces? Moi, c'est ce qui m'inquiète, mais la production. Et il y a un autre aspect, c'est qu'on a parlé de programme pilote. Mais qu'en est-il des périmètres qui pilient le pays? On a l'impression qu'on n'a pas fait le bilan de ce périmètre. Quand on voit le Pédric de Kati et autres, de Kita, le Padi de Yelimane, le projet Faguibine, c'est des projets qui dorment en réalité.
Alors, le Faguibine continuer à est beaucoup nous faire affecté par la crise.
Oui, la crise, c'est un prétexte. Avant la crise, qu'est-ce qui a été investi? Et le Fagwin, c'est pas de subvention, c'est quand même des aménagements. Est-ce que les aménagements ont été réalisés? Et je doute fort et je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on nous fasse le bilan.
Avant que Djakardia...
Non, Paul Djakardia va intervenir. Paul a beaucoup parlé.
Je pense que au Mali, la production, elle a été toujours excédentaire depuis quelques années, heureusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, n'est-ce pas, chaque année, subventionne l'engrais pour les paysans à hauteur de plusieurs milliards. Mmh. Et moi, je suis convaincu que depuis 5 voire une dizaine d'années maintenant, nous sommes en train de subventionner pour les autres pays. Nous sommes en train de produire pour les autres pays. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Paul l'a dit à un moment donné, nous avons signé des accords qui ne nous permettent pas de fermer nos frontières. Mais quand c'est une question de sécurité alimentaire, je pense qu'il est temps.
Il faut prendre les mesures drastiques.
Il faut revoir les mécanismes. Parce que nous sommes en train de produire. Quand vous partez à Niono présentement, vous allez voir que ce sont des camions burkinabés, principalement mauritaniens, et nigériens. Donc ce sont des camions qui viennent pour rafler la production, si bien que il a dit les paysans n'étant pas un énarque ou un autre gestionnaire, il vend jusqu'à sa propre consommation. C'est ce qui pose à un moment donné problème au niveau de la période des soudures. Donc il est temps pour les autorités de sécuriser la production nationale pour que les subventions accordées par l'État aux paysans ne soient pas des subventions vaines.
Alors, ce qui appelle donc une question, est-ce qu'il faut stopper les importations de céréales?
Les exos sur les importations. Moi j'ai toujours lutté contre, quand j'écrivais encore dans la presse, j'étais à l'Indépendant, c'était l'une de mes batailles. J'ai lutté contre le premier ministre en son temps, c'était Maud Bossidibé. J'ai fait des articles jusqu'à ce qu'on a arrêté les subventions, disons les exos. Parce que chaque fois, la production est excédentaire, comme Yossi l'a dit. Et chaque fois, on a des exos. Et les exos, ça sert à quoi? Acheter des pièces de rechange au lieu d'importer du riz. On importe du riz pourquoi? On produit assez? Et on donne des exos
et du riz de qualité.
Ah ben bien sûr, et on donne des exos à des céréaliers qui vont acheter autre marchandise en Chine. Et moi, je suis contre. Je voulais un peu dire un petit mot par rapport aux engrais. Je suis vraiment le politique malien, je suis vraiment quelqu'un qui ne le gobe pas, hein, et ça je veux le dire. Mais sur ce point des engrais, l'année dernière, quand le président de la République a décidé de ramener le prix à 11 000 francs le sac de 50 kilos, les techniciens qui sont chargés de mettre en œuvre cette mesure à partir du ministre du Développement Rural ont veillé sur le prix et l'achat des engrais comme du lait sur du feu. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. Il y a des affaires qui sont pendantes au niveau de la justice pour cela. Donc ce n'est pas un discours politique, même si le discours politique, je le sais. Et par rapport à l'opération pilote qui a été annoncée par le président de la République, vous savez, le Conseil supérieur de l'agriculture, il est basé sur quoi? Il est basé sur des calculs des techniciens. C'est les techniciens, le président de la République, c'est un politique, c'est pas un technicien. Il y a toute une machine technique qui est derrière, qui prépare, il y a d'abord le comité de l'agriculture qui est présidé par le Premier ministre qui se tient avant le Conseil supérieur. Donc c'est toute une batterie de calculs techniques et sans oublier que nous avons les bailleurs de fonds qui sont là, parce que quand on donne les chiffres que la campagne agricole va coûter combien de milliards,
189 milliards,
ce n'est pas seulement les ressources du Mali, ça ne peut pas, il y a les bailleurs de fonds qui sont là qui sont prêts à financer.
Alors aujourd'hui, ce programme pilote vient trouver déjà des programmes déjà en place, Djakardia Yossi, notamment d'usines de construction ou bien d'assemblage donc de tracteurs. Est-ce que vous pensez que il faille mettre un autre programme pilote en place?
Bon, moi je pense que on aurait pu renforcer l'existant. Mais le problème de ces tracteurs aussi, au-delà de du discours qu'on tient, les tracteurs de façon générale ne sont pas donnés à ceux qui en ont le plus besoin généralement. Hein? Ça pose des problèmes. Donc moi je pense que le programme il est bon. cette fois-ci maintenant, il faut mettre l'accent sur les choix des bénéficiaires. Parce que dans la plupart des cas, les paysans, les producteurs, ils n'ont pas les moyens de s'approprier. Parce qu'il faut passer par la banque, il faut se faire garantir. Beaucoup de ces paysans n'ont pas ces moyens, si bien que les tracteurs prennent généralement d'autres chemins. Et c'est bien dommage.
Oui, on a vu, hein, on a donné des tracteurs aux Kidalois.
Voilà. Alors, Maman, un domaine dans lequel vous allez peut-être vous sentir plus à l'aise, c'est donc l'accès à la terre. Les paysans donc, des régions donc, de la zone de l'Office du Niger peinent beaucoup dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que ce genre d'espace, comme le Conseil supérieur de l'agriculture, doivent être aussi des moments de réflexion par rapport à l'accès à la terre?
Oui, tout à fait, mais j'aurais aimé que désormais le Conseil supérieur de l'agriculture se passe à Nyono, parce que j'aime bien ce village, et ou ailleurs où il y a
les dispositifs. Et pratiquement tous les ans, c'est au palais de la présidence.
Au palais de la présidence, avec un beau menu et puis tout le reste. Moi, j'ai l'impression que, sincèrement, j'ai l'impression que ça a été le talon d'Achille de tous les régimes. Et on n'est pas trop, on parle beaucoup par rapport à l'agriculture, mais on n'est pas en train de travailler parce qu'on a de la terre, on a des terres arables, on a de l'espace, on a l'eau. Et je pense que rien ne nous empêche d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais moi, je pense que le Conseil supérieur de l'agriculture que j'ai vu cette année, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on veut nous faire gommer. Et peut-être c'est la famine qui est en train de se faire signaler dans certaines zones, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est mon discours, le discours d'un observateur non averti, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Je ne sais pas, les mille tracteurs, j'aimerais bien savoir sur quels critères on va donner les tracteurs, comme l'a dit Jacarija aussi.
Si, ça ne va pas être comme les logements sociaux.
Ça va être comme les logements sociaux, parce qu'il y a quand même des acquis qu'il ne faut jamais briser. Et peut-être, peut-être je vais faire un petit raccourci. C'est une façon de récompenser les gens qui vont s'investir dans les élections communales à venir, parce que c'est l'enjeu majeur pour ce régime et pour les gens. Et déjà, il y a une spéculation au niveau de l'Office du Niger qui commence. Et il y a même des partis de la majorité présidentielle qui commencent à se sentir lésés quand on voit le parti de Omar Mariko. À l'Office du Niger, il y a des jeunes à qui on a promis de belles choses. Et à l'Office du Niger aujourd'hui, quand tu as un chat, quand même, c'est important.
Alors, nous allons parler donc des logements sociaux, puisqu'on y est. La fin donc, la date limite, c'est donc la fin de ce mois, donc dans quelques heures. Paul Ben, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que avec les dépôts de caution et autres, cela complique davantage la situation des fonctionnaires?
Oui, bon, écoutez, les logements sociaux, c'est une terminologie que moi je n'ai jamais acceptée. Hein, logements sociaux.
Comment doit-on déterminer?
Logements sociaux, c'est quoi? C'est logement, le social. Si on veut vraiment gérer le social au Mali, ce n'est pas en construisant, excusez-moi, des poulaillers et en demandant aux gens de payer sur.
Alors, les F3, les F4, les F5, ça existe un peu partout dans le monde.
Oui, F5, F4, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Si vous avez.
En quoi le programme de cette année est-il différent des autres?
Moi, je vois
la caution
pas. Moi, je crois que oui. La caution. Mais dans la gestion, au fait, moi, mon problème, c'est quoi? C'est l'attribution des logements sociaux. Quand on dit que quelqu'un a droit à un logement social, il faut vraiment que les critères soient des critères sociaux. On ne va pas vous demander
de payer
2 millions. Mais 2 millions, mais quel est le fonctionnaire moyen qui a le ou bien un RMiste qui va se souffrir ce logement?
Ce luxe.
Moi, je n'ai jamais.
C'est un luxe.
C'est un luxe.
Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce forum de la presse. Voilà le dernier volet qui a donc fait sortir Paul Ben de ses gants. Merci à vous de l'avoir suivi. Les invités, Paul Ben, donc correspondant de plusieurs médias allemands, Jacarija Yossi du journal L'Indépendant, Maman Cissé du groupe Renouveau. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Salim Diouara est à la technique, Nouhoum Diré est à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end, bonsoir et à très bientôt pour un autre débat.
Grand dialogue.
Sigika Foba.
Et toi.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halu Dmaoundi.
Chenni Biri. Sikika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.